Alors, bonjour frères et sœurs. Nous allons prier avant d'étudier le passage de ce matin. On va prier ensemble notre Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ta parole, la Bible. Nous croyons que ce texte a été inspiré par ton esprit, qu'il est digne de confiance, qu'il est fiable, qu'il est sans erreur, qu'il est la seule vraie autorité, une autorité qui demeure vraie dans le temps. Et nous croyons qu'elle est encore vraie aujourd'hui en 2022. Nous te prions Seigneur d'agir par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, ouvrir les yeux de notre cœur, renouveler notre intelligence, de nous rendre sensibles à ta parole. Permets que ceux qui étudieront ce passage peut-être pour la première fois ce matin puissent être touchés par ton esprit. Pour ceux qui le connaissent déjà, permets que ce soit un rafraîchissement, une occasion pour nous de recentrer nos priorités, de se recentrer sur toi. Mais dans tous les cas, sers-toi de cela pour édifier ton Église. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à tourner Romains 9. On va lire tout de suite versets 6 à 29. « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, « Je viendrai, et Sarah aura un fils. » Et bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, et pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera asservi au plus jeune. » Selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes, non. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, pour que mon nom soit publié sur toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, mais qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au potier, au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il le dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas ma bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. » Et là même où on disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne vous avait laissé un germe, mais nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Un passage solennel. Hein? Donc, on voit dans ce passage-là qu'il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Et on peut supposer que c'est des questions que Paul a souvent rencontrées lorsqu'il évangélisait dans ses voyages missionnaires. Et il écrit à l'Église de Rome, aux chrétiens de Rome, et c'est comme s'il répond à leurs questions à l'avance, on peut dire. Comme s'il était même dans un débat, dans un échange. Il soulève la question et il y répond. Mais pourquoi ce débat? D'où ça vient? Bien, lorsqu'on lit les chapitres précédents, parce que ça fait suite vraiment aux 8 premiers chapitres, mais Paul a répété plusieurs fois et de plusieurs manières, entre autres aux Juifs, qu'ils ne peuvent pas être sauvés simplement par leur appartenance ethnique. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés israélites, qu'ils descendent de sang directement d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse, qu'ils sont automatiquement sauvés. Ils ne doivent pas se berner à cela. Et ce n'est pas parce qu'un païen décide d'adopter la religion juive et de suivre la loi qu'il sera automatiquement sauvé non plus. Et Paul répète que tous, les Juifs comme les gens de toutes les nations, les païens, ont tous péché contre Dieu. Certains en sont peut-être pas conscients, mais tous ont péché contre Dieu et méritent tous d'être condamnés par le juge suprême qui est Dieu. Et ce qui les attend finalement, Si Dieu n'était pas intervenu, ce serait l'enfer pour tout le monde, autant pour les Juifs que pour les païens. Pourtant, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, Dieu a répété, annoncé beaucoup de promesses aux Israélites, à Israël. Donc, comment ça se fait que Dieu a promis le salut aux Israélites et qu'à l'époque de Paul, selon ce que Paul enseigne, la majorité ne sont pas sauvés, ils ne sont pas héritiers de ces promesses? Donc, ça soulève plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que Dieu a manqué à sa parole? Deuxièmement, est-ce que Dieu est injuste? Et troisièmement, est-ce que Dieu a changé son plan? Est-ce qu'il a comme juste réagi? C'est des bonnes questions. Paul répond tout de suite à la première question. La parole de Dieu n'est pas devenue caduque ou sans effet. On sait dans l'Ancien Testament que lorsque Dieu proclame quelque chose, qu'il promet ou qu'il prédit, ça arrive. Et ce n'est pas parce que tout à coup, il y a un revirement de situation avec le peuple d'Israël qui devient évident que ça veut dire que Dieu a manqué à sa parole ou que la parole de Dieu n'a plus d'effet, comme si Dieu avait perdu le contrôle. Donc, Paul, tout de suite, il dit, ce n'est pas cela. Dieu a adressé à Israël ses bénédictions dans l'Ancien Testament. On le voit au verset 4 et 5 dans le passage précédent qu'on avait étudié la semaine passée. Il dit que les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire promise, les alliances, la loi, le culte que Dieu a établi pour être en relation avec les hommes, les promesses, les patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est d'eux qu'est issu même le Christ. Dieu fait homme, Dieu fait chair, est né juif. Donc c'est un peuple qui est privilégié. Pourtant, à l'époque de Paul, la majorité, selon Paul, ne sont pas sauvés. Parce que les Juifs, à l'époque de Paul, croyaient, en général, c'est ce qui était enseigné dans les synagogues et à Jérusalem, qu'ils étaient automatiquement héritiers de la vie éternelle, à moins qu'ils rejettent complètement Dieu, mais qu'ils étaient automatiquement héritiers de la vie éternelle, qu'ils étaient sauvés, pardonnés d'avance, que Dieu allait leur faire miséricorde parce qu'ils étaient nés israélites. Et ils citaient les promesses faites aux Israélites dans l'Ancien Testament pour soutenir ça. Si c'est vrai que Dieu avait promis cela au peuple d'Israël, que parce qu'ils descendent d'Abraham, automatiquement, ils vont être sauvés, ils seront automatiquement pardonnés. Si c'est vrai que Dieu avait fait cette promesse solennelle à tous les Israélites, bien, on pourrait conclure, effectivement, qu'il a manqué à sa parole. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. C'est faux. Et le premier exemple que Paul amène comme argument pour dire que c'est faux, c'est que ce n'est pas tous les enfants d'Abraham qui sont héritiers de cette promesse-là. Abraham lui-même a eu deux fils, en tout cas les deux premiers. Ensuite, il a eu d'autres enfants, mais le premier fils, c'est Ismaël. Il l'a eu avec Agar. Le deuxième est Isaac. Et c'est Ismaël qui est le fils aîné. Donc, on s'attendrait finalement que ça va être lui l'héritier principal et que Dieu, les promesses qu'il a fait à Abraham vont passer par Ismaël pour se propager à la descendance. Mais Dieu dit non, ça va passer par Isaac, même si c'est le deuxième. C'est Isaac qui est le fils promis, le fils de la promesse. Donc, c'est par lui que l'héritage devait être transmis. Donc, c'est déjà un premier argument que Paul amène pour dire c'est pas parce que tu es un fils direct d'Abraham qu'automatiquement la promesse s'applique à toi. Ce n'est pas vrai que tu es automatiquement bénéficiaire des promesses faites à Abraham. Et si on ramène ça au contexte de l'Évangile qui est prêché à toutes les nations, le fait d'être un descendant d'Abraham ne procure pas automatiquement le salut. Et ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'on n'ira pas en enfer, qu'on sera pardonné de nos péchés, qu'on ne sera plus sous la colère de Dieu. Ce n'est pas notre appartenance ethnique. Là, quelqu'un pourrait répondre, OK, peut-être pour Ismaël et Isaac, mais c'était particulier parce qu'ils n'avaient pas la même mère. OK, mais là, Paul renchérit avec un autre exemple où là, il n'y a aucun doute, c'est la même mère, c'est Rebecca. Donc, Isaac a épousé Rebecca, elle a été enceinte au même moment de deux jumeaux, Ésaü et Jacob, donc qui ont été conçus en même temps, la même mère, le même père. Ésaü va sortir en premier, comme Dieu le prédit. Il annonce Ésaü qui va sortir en premier, ensuite, ça sera Jacob, il ne peut pas sortir en même temps. Mais Dieu annonce tout de suite, à l'avance, c'est Jacob, le plus jeune, qui va finalement avoir la suprématie. Ésaü va être assujetti à lui, asservi. Finalement, ma promesse va passer par Jacob. Et Jacob va devenir, il va être renommé plus tard, Israël. Il devient le père des 12 tribus d'Israël. Pourquoi Dieu a fait cela? Mais le texte dit que c'était justement pour montrer que c'est lui qui décide par qui va passer la promesse, qui il choisit, qui il élit. Donc, ça ne dépendait même pas du mérite de Jacob, puisque même Paul le souligne, il n'avait même pas encore fait une bonne action ou une mauvaise action. Il avait peut-être juste donné un coup de pied dans le ventre de sa mère, mais il n'avait pas encore montré qu'il était une meilleure personne qu'Ésaü. Et même, lorsqu'on regarde la vie de Jacob par la suite, c'est pas glorieux, là, son parcours. Il ne montre pas qu'il est meilleur de nature qu'Ésaü, son frère. Il est prompt à tromper, à faire des manigances. Il a peut-être du respect pour son père, mais il voit l'Éternel Dieu comme le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père, mais pas son Dieu. Et même, il va dire, si jamais ce Dieu-là me fait revenir sain et sauf de mon voyage, à ce moment-là, ça sera mon Dieu. Donc, il n'avait pas la même foi. Là. C'était un peu comme un enfant de parents chrétiens qui n'a pas encore adopté le Dieu pour son Dieu personnel à lui. Donc, ce n'est pas sur son mérite que Dieu l'a choisi. Mais Dieu a fait en sorte, on le voit dans son parcours de vie, de l'attirer à lui, de l'appeler à lui. Et éventuellement, Jacob s'est converti. Donc, à la base, le principe est le même et toute la Bible est compatible avec ce principe-là. On le voit, c'est conforme à tous les récits qu'on voit et tout l'enseignement. Ce n'est pas le fait d'être un descendant de parents croyants qui fait en sorte qu'on est automatiquement croyant, automatiquement sauvé. Le salut est individuel, personnel. C'est sûr que c'était un grand avantage d'être né israélite, là, parce qu'on avait accès à la loi, à la révélation de Dieu, mais ce n'était pas automatique. Ce n'était pas tout israélite qui était sauvé. Comme aujourd'hui, ce n'est pas tout homme ou toute femme qui est né dans un contexte chrétien qui va être sauvé. Ce qui sauve, finalement, c'est le fait d'être élu de Dieu. Et s'il y a si peu de Juifs qui croient en Jésus pour être sauvés, on doit accepter que c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce que seuls ceux qui croient, encore aujourd'hui, sont ceux que Dieu a choisis, sont les élus de Dieu. Ça soulève une question naturellement. Là. Est-ce que Dieu est injuste? C'est une question qui peut être légitime. Et Paul y répond, est-ce que Dieu est injuste? Si c'est vrai que selon ce que Paul enseigne, que seulement celui que Dieu a choisi sera sauvé, sera héritier de sa promesse, sera gracié, pardonné, indépendamment même de son mérite, est-ce que Dieu est injuste envers ceux qu'il n'a pas choisis? Mais Paul répond tout de suite, certes, non. On peut tout de suite rayer ça comme possibilité. Ce n'est pas une injustice de la part de Dieu. Même si ça peut être difficile à comprendre, il faut l'avouer, avec notre intelligence limitée, notre cœur qui est tordu aussi. Mais Dieu déclare qu'il décide, lui, et il est en droit de décider. C'est une décision légitime. C'est lui le Créateur. Il décide à qui il fait miséricorde. Donc, il décide à qui il va pardonner les fautes. Donc, la Bible prend pour acquis, elle fait le constat réaliste, là, que tout le monde est criminel, tout le monde est coupable. Ce que Dieu décide finalement, c'est d'en sauver quelques-uns. Mais Dieu serait parfaitement en droit de ne sauver personne. Et on mériterait tous la condamnation en enfer. Donc, c'est un acte de pure grâce de la part de Dieu d'en choisir. Et ce n'est pas une injustice. Il n'est pas obligé de choisir tout le monde. Je suis allé revérifier dans la loi québécoise et la loi canadienne aussi, si ça existe encore, puis il semble que ça existe encore. Au Québec, le lieutenant-gouverneur peut accorder un pardon en dernier recours, là, si on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de prouver l'innocence, puis je ne sais pas pour quelle raison que ça pourrait justifier, mais on peut faire une demande au lieutenant-gouverneur du Québec pour recevoir un pardon, mais si on a été condamné, même quelqu'un qui aurait été condamné à la prison à vie pourrait faire une demande de pardon et ça pourrait lui être accordé. Je pense que ça n'arrive pas souvent au Québec. La même chose existe au Canada aussi. Le gouverneur général peut accorder son pardon. Et le terme, c'est vraiment le pardon. Et la condamnation lui est enlevée. Puis il peut même voir son casier judiciaire effacé. C'est à la discrétion du gouverneur général. Et c'est un acte de bonté. On ne sait pas si il sera sage lorsqu'il le fera ou pas, là. Mais tout ça pour dire que la loi le permet. Mais est-ce qu'on peut dire que s'il le fait dans le cas d'un prisonnier, qu'il le gracie, est-ce qu'il est injuste de ne pas le faire pour tous les condamnés? Bien sûr que non. On a une tendance, un peu comme des enfants, à penser que si quelqu'un n'accorde pas la même chose à tout le monde, c'est une injustice. Mais c'est faux. Peut-être que ça provient de notre cœur tordu où on envie ce que les autres ont. Mais notre pensée n'est pas conforme à la pensée biblique. On a besoin de se la faire renouveler. Dieu est en droit de décider à qui il accorde sa grâce, à qui il fait miséricorde. Non, Dieu décide à qui il fait miséricorde et de qui il a compassion. Mais la grâce que Dieu accorde, c'est plus que simplement accepter le pardon, accepter de pardonner quelqu'un. Lorsqu'il décide de faire grâce à quelqu'un, c'est une grâce qui a un effet, qui est effective dans la vie de la personne. Ce n'est pas seulement une transaction sur un papier. Oui, il y a ça, il écrit nos noms dans le livre de vie. Mais il veut que ceux à qui il fait grâce se tournent vers lui, se convertissent, le choisissent même. C'est là ce qui est un peu un mystère pour nous, mais on doit l'accepter. Mais celui à qui Dieu décide de faire miséricorde va éventuellement croire en lui. Il va éventuellement donner sa vie à Jésus. Il va accepter que Jésus vienne dans sa vie. Il va accepter que Jésus qui vient dans sa vie, ça bouleverse sa vie. Il va être prêt à payer le prix. Et il va persévérer jusqu'à la fin. Et il va le faire, là, intentionnellement, volontairement. Mais c'est Dieu qui fait en sorte cela. Parce que Dieu l'appelle, comme on lit au verset 11. Ça dépend de celui qui appelle. Dieu appelle, Dieu attire. Jésus a dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il n'y a personne qui peut finalement se tourner vers Jésus et vouloir l'accepter si ce n'est pas Dieu le Père qui l'attire. Il dit, Jésus, dans Jean 6, 65, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » La foi est nécessaire pour croire en Jésus, le désir de lui donner sa vie, l'humilité nécessaire pour avouer ses fautes, se repentir, ça vient de Dieu. Et, à l'opposé, celui à qui Dieu décide de ne pas faire grâce va éventuellement lui-même endurcir son cœur. Il va rejeter Jésus. Et il va être coupable de cela, d'avoir comme rejeté la foi, d'avoir désobéi à la foi. Et même s'il se convertit pour un temps, quand l'épreuve va survenir ou le temps va faire en sorte qu'il va abandonner la foi, s'il n'est pas un élu. Donc, la Bible montre sans gêne que c'est Dieu qui décide. Et va même jusqu'à dire quelque chose qui parfois, ça nous trouble, mais que c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de ceux qui ne sont pas ses élus. L'exemple que Paul donne, c'est celui du Pharaon. On se souvient dans quel contexte. C'est le peuple d'Israël. Ils étaient appelés les Hébreux. Ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu a fait naître Moïse, il l'a choisi, puis il s'est révélé à lui, puis il a dit « Tu vas aller libérer mon peuple d'Égypte. » Mais, je te préviens, le Pharaon ne va pas vous laisser partir. Je vais endurcir son cœur. Puis Dieu a décidé d'endurcir son cœur avant même que Moïse ait eu la première discussion avec le Pharaon. Et Dieu même va donner les raisons. Il n'est pas obligé de donner les raisons pour lesquelles il prend ses décisions, mais ici, il a donné quelques raisons. Il voulait, entre autres, que le Pharaon se rende coupable, et le peuple d'Égypte aussi qui le conseillait, ses magiciens, pour que, éventuellement, Dieu montre sa colère, sa puissance, en les jugeant sévèrement, par 10 plaies. En même temps, il voulait montrer toute sa suprématie, sa supériorité sur les faux dieux d'Égypte. Il voulait faire sortir puissamment son peuple, et que cet événement-là soit connu de tous les peuples sur la terre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, Dieu avait ses raisons. Certains peuvent se demander si ce n'est pas là une injustice de la part de Dieu, à ce moment-là, de condamner les hommes qui sont incrédules, alors que c'est lui qui endurcit leur cœur. Comme le dit Paul, quelqu'un pourrait dire, mais qui résiste à sa volonté? Si c'est Dieu qui a décidé que j'allais être rebelle et j'allais être incrédule, pourquoi est-ce qu'il me blâme? Pourquoi est-ce qu'il me punirait? C'est pas de ma faute. Mais en réalité, toute la Bible montre aussi que ceux qui rejettent Dieu sont pleinement conscients de le faire, et c'est une décision personnelle réelle qu'ils le font. Ils rejettent Dieu consciemment, et ils sont pleinement responsables. C'est un mystère, mais la Bible nous dit que Dieu ne dirige pas les personnes comme des marionnettes, comme des robots. Il fait en sorte que nous prenions nos propres décisions. Et ceux qui décident de rejeter Dieu sont à 100% coupables de cette décision-là. Et ils sont responsables. Mais ici, de toute façon, Dieu n'a pas à essayer de nous expliquer, on ne serait pas capable de comprendre, là. Mais Dieu n'est pas obligé de nous expliquer quoi que ce soit. Il n'a pas de compte à nous rendre. Il faut faire attention parfois dans nos débats théologiques ou dans nos tentatives d'expliquer la pensée de Dieu, là. D'être en train d'argumenter ou de discuter avec Dieu lui-même. Et on doit faire attention à cela. On doit accepter ce qu'il nous dit, et même lorsque ça nous dépasse, lorsqu'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles Dieu fait telle ou telle chose. Et Paul donne l'illustration du potier, celui qui façonne des vases, des pots. Mais le potier peut décider de faire un beau pot, fin, pour un banquet, pour un mariage, un vase, pour mettre des belles fleurs dedans. Il peut décider aussi, avec la même pâte, de faire un pot de chambre, qui sert à ce que vous savez, quoi. Mais c'est le potier qui décide. Et est-ce que le pot peut argumenter avec le potier, pourquoi tu as fait ça, c'est pas juste? Non. Ça fait penser à l'histoire de Job, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais Job vivait des grandes souffrances qui étaient, aux yeux humains, injustes. Et même le texte ne se gêne pas pour montrer que les malheurs que Job subissait, ce n'était pas causé à cause de ses péchés. C'est pas que Job était parfait, mais c'est pas parce que tout à coup il avait rejeté Dieu que Dieu lui envoie ces malheurs-là. C'est ce que ses amis l'accusaient, mais c'était faux. Même Dieu va dire que ses amis ont mal parlé, que ce n'était pas vrai. Mais Job se questionne face à cette apparente injustice, et il va jusqu'à questionner Dieu. Et il va jusqu'à demander Dieu, finalement, de se présenter à la barre d'un procès pour s'expliquer. Et là, éventuellement, Dieu se présente à Job. Et est-ce qu'il lui donne les explications de pourquoi il a subi ses souffrances? Non, il ne lui donne aucune explication. Au contraire, il lui rappelle, « Je suis le Créateur, je suis le potier. Tu étais où, toi, quand j'ai créé le monde? » T'étais où quand j'ai rempli de neige le sommet des montagnes? T'étais où quand j'ai mis les monstres marins? Est-ce que tu es capable d'expliquer comment tel ou tel phénomène fonctionne? Oh. Il a rappelé finalement à Job qu'il est le Créateur et qu'il n'a pas de compte à rendre. Il n'a pas d'explication à donner et ce n'est pas à nous de mettre en doute sa justice. Il est toujours juste et nous le dit et nous devons le croire sur parole. Si nous croyons vraiment en Dieu, nous croyons qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est toujours juste. Deutéronome 29 nous rappelle que Deutéronome 29, 28, nous rappelle qu'il y a des choses que Dieu nous a fait l'honneur de nous révéler. Et ça nous appartient, ça, c'est précieux. Mais les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et c'est correct. Et elles vont rester cachées. Mais peut-être qu'à la fin des temps, Dieu va nous faire la grâce nous aider à comprendre. Et Paul continue avec l'illustration du potier en disant que Dieu a formé des vases pour un usage d'honneur et d'autres pour un usage vil ou un usage de mépris. Et il va jusqu'à dire que certains sont formés pour la perdition. Donc, c'est leur la destinée que Dieu a choisie pour eux. Et ils servent, ce n'est pas pour rien. Il y a une utilité à cela et Dieu n'aurait pas été obligé de nous le révéler, mais il nous le révèle. Dieu destine certains à la perdition, donc on comprend à l'enfer même, pour démontrer, entre autres, sa grande patience. Parce qu'il y a plein de gens sur cette terre qui lèvent le bras contre Dieu, qui se moquent de ceux qui sont croyants, qui vivent, même qui prennent des décisions contraires à ce que Dieu dit, justement, juste pour montrer qu'ils ne veulent pas être soumis à lui. Ils augmentent sa colère et pourtant Dieu patiente. Donc, ça sert, entre autres, à démontrer sa patience, mais un jour, ça va servir à démontrer que sa colère va aboutir à son jugement. Au jour du jugement, Dieu va montrer à quel point il est juste, qu'il est saint, il est parfait. Et ça va éclater son jugement. Donc, ça prend des personnes qui doivent être jugées et condamnées pour le montrer. Mais on voit quand même partout dans la Bible que l'homme demeure toujours responsable de ses choix et inexcusable devant Dieu. D'autres sont formés pour la gloire. Et dans l'Épître aux Romains, la gloire, c'est un thème qui montre d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, d'être sauvé, d'être dans le paradis, dans la maison de Dieu, sur la nouvelle terre qu'il nous prépare. Donc, c'est d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé, d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, certains sont destinés à cela. Et qu'est-ce que ça va montrer? À quoi ça sert, cela? Ça sert à montrer la grâce de Dieu, sa miséricorde. Le fait que vous et moi, si vous êtes parmi ceux qui sont sauvés, que nous soyons sortis, secourus, comme si nous étions noyés, comme si nous étions morts dans le fond de la mer, et Dieu nous redonne la vie. Nous savons, puisque nous avons cru, que ce que nous méritons, c'est la condamnation en enfer. Et pour l'éternité, nous allons le louer parce que Dieu nous a enlevés de ça, il nous a délivrés de cette condamnation. Ça sera même le sujet principal de nos louanges. C'est pour cette gloire-là, la gloire de cette grâce. On lit dans Éphésiens 1, 4 à 6, « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. » Mon Dieu, s'il en a choisi, c'est pour qu'il devienne saint. C'est ça l'objectif, sans défaut devant lui. « Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, selon son plan qui est bon. » Dans quel but? Pour célébrer la gloire de sa grâce, le fait qu'il nous a pardonnés. On le célèbre déjà dans nos chants. On l'a célébré ce matin aussi en se souvenant du sacrifice de son Fils. Et on va le célébrer pour l'éternité. Même, on va prendre davantage conscience même de l'ampleur de sa grâce, de son salut qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus. Une troisième et dernière question que Paul semble répondre ici, c'est est-ce que Dieu a changé son plan? Puisque le focus dans l'Ancien Testament est sur Israël. Et on arrive dans le Nouveau Testament et tout à coup, il s'adresse à tous les peuples. Est-ce que c'est un changement de plan? C'est sûr que c'est un changement d'air, d'alliance, d'époque. Mais est-ce que c'est parce que Dieu a changé de plan? Il est passé au plan B lorsque son peuple a rejeté Jésus. Il y a de ça un peu, mais l'Ancien Testament révèle que c'était déjà prévu. Ça faisait déjà partie de son plan. C'était déjà annoncé, même si c'était gardé sous une forme de mystère. Les prophètes, Osée et Ésaïe, entre autres, ont annoncé cela. Ont annoncé d'abord une ouverture pour les autres nations, donc une ouverture pour le salut des gens d'autres nations. Alors, là où ils n'étaient pas appelés à peuple de Dieu, ils le seront. Là où ce n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas ma bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Wow! On sait aussi que, selon Ésaïe, que c'était même prophétisé que le nombre des fidèles en Israël serait réduit, un reste. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Mon Dieu avait même annoncé cela, que ce ne seraient pas tous les Juifs qui seraient sauvés, mais un reste, et que ce serait peu en comparaison au nombre total des Israélites de sang. Et Dieu dit qu'il va exécuter pleinement sa parole sur la terre. Non, ce n'est pas son plan B, c'est son plan A, qu'il a révélé progressivement, qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui. Ici, on pourrait s'attarder peut-être aux raisons pour lesquelles les citations que fait Paul ici, des passages des prophètes, sont modifiées légèrement, mais on ne va pas s'attarder, là, il dit moins 5. Paul a transformé un peu les passages de ces prophéties-là, mais ce qu'on sait finalement, c'est que le Saint-Esprit a guidé Paul pour nous révéler ces vérités, que c'est la même chose pour tous les auteurs du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit les a guidés pour appliquer ces passages de l'Ancien Testament qui semblaient, en quelques cas, concerner seulement Israël, mais il les applique au nouveau contexte du peuple de Dieu qui est formé maintenant, non seulement des Juifs qui croient, mais des gens de toute nation qui croient au nouveau peuple spirituel de Dieu. Donc, Paul est convaincu que Dieu n'a pas changé de plan et qu'il avait d'avance marqué un jour, à la venue de Jésus, où il allait commencer à appeler des gens de toutes les nations, de toute culture, de toute langue, pour qu'ils soient intégrés à son peuple et qu'ils soient sauvés. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de la parole de Dieu sur terre. Est-ce que vous êtes un élu de Dieu? Bien, ce n'est pas parce que vos parents sont croyants que vous l'êtes, si vous l'êtes. Ce n'est pas parce que vous venez à l'Église depuis longtemps même que vous l'êtes. Vous l'êtes si vous avez cru et si vous croyez sincèrement en Jésus-Christ, que Jésus est réellement votre Seigneur, votre Sauveur, et que cela porte des fruits dans votre vie même. C'est intéressant de voir la lettre que Paul écrit, une autre lettre qu'il écrit aux chrétiens de Thessalonique, aux Thessaloniciens. Il a entendu parler de leur réputation. Là, ils ont reçu cette parole-là que Paul prêchait, l'Évangile. Ils ont cru. Et Paul leur écrit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant notre Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour, de la fermeté, de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il fait leur éloge, mais c'est Dieu qui le remercie. Donc, il voit vraiment que c'est Dieu qui a permis ça dans leur vie. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est évident que vous êtes comptés parmi les élus. » Il continue au verset 6, « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations même, ou beaucoup de souffrances, mais avec la joie de l'Esprit-Saint. La joie, même dans l'épreuve, c'est une marque qu'on est compté parmi les élus. » Au verset 9 et 10, il dit, « On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, mais par notre parole, et comment vous êtes convertis à Dieu de manière visible, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Une autre marque du vrai croyant, c'est qu'on est convaincu qu'un jour Jésus va revenir. On a l'espérance et on garde cette espérance-là. Donc, si ce n'est pas encore le cas, est-ce que Dieu vous appelle même ce matin? Ne résistez pas. Aujourd'hui, c'est le jour pour répondre à son appel. Et Jésus vous invite. Il dit dans Matthieu 11, « Tout m'a été remis par mon Père, lui qui est le Fils de Dieu. » Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, un repos éternel. » Et ça même, Jésus parle à la fin, dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse 3. « Moi, je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. » Donc, Jésus est peut-être en train de vous attirer à vous repentir, à reconnaître que vous avez péché, à vous réconcilier avec Dieu. Mais si Dieu est en train de vous convaincre à cela, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous sauver. « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen.